Voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 janvier, à la porte de cette année où nous allons vivre en Église une démarche de prière en demandant à Dieu qu'il nous ouvre à l'espérance. La dernière fois, je vais vous rappeler un petit peu ce que nous avons fait pour ceux qui n'étaient pas là. Le but de cet enseignement, c'est de nous aider sur notre chemin de délivrance. Et nous savons que, en fait, ce qui fait fuir l'ennemi, ce n'est pas des prières magiques qu'on ferait parce que celui-là, il prie mieux que les autres. On n'est pas là-dedans. Ce qui fait fuir l'ennemi, c'est notre foi. Donc c'est notre louange. C'est que nous accueillons le Seigneur. Saint Augustin, c'est par une vraie piété que les hommes chassent la puissance de l'air, c'est-à-dire le démon, en l'exorcisant, non en l'apaisant. Car le démon ne peut vaincre ni asservir un homme qu'en l'associant à son péché. Donc, le premier exorcisme, c'est la confession. J'espère que vous ne faites pas partie de ces personnes qui disent « Mon Père, je n'ai pas de péché ». Je leur réponds toujours, je vais vous donner des idées, pas de souci. Jean-Paul II se confessait tous les jours. Voilà. Alors, donc, si nous voulons vraiment bien vivre des délivrances dans nos vies, la première chose à faire, c'est de nous convertir et d'accueillir Jésus comme notre seul maître. Est-ce que chacun d'entre vous a donné sa vie à Jésus? J'espère. Il y a un moment dans sa vie, je crois qu'il faut être clair. Dire à Jésus, ma vie t'appartient. Vous allez dire, bah oui, mais moi j'ai pas envie d'être comme Marthe Robin, cloué sur un lit pendant 50 ans. Alors ça, non. Dieu ne veut pas ça. Effectivement, parce que notre Dieu est un Dieu de vie. Alors, si nous nous donnons à lui, il nous fait rentrer dans notre identité véritable de fils et de fille de Dieu. Sinon, il ment. Notre Dieu n'est pas menteur. Ce que nous avons entendu le jour de Noël, le prologue de Saint Jean, ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc vous avez un seul risque, si vous donnez votre vie à Jésus, c'est de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, c'est un gros risque. Enfant de Dieu, ça veut dire que vous allez participer à la divinité de Dieu. C'est-à-dire que rien qu'en vous regardant, on va dire « Waouh !» Voyez comme il s'aime. L'amour véritable. Bon, j'espère que vous êtes convaincus maintenant. Donnons notre vie à Jésus. Nous ne sommes pas dans une démarche magique où on va essayer des prières. Non. Non. Et moi, je déconseille d'ailleurs de passer son temps à faire des prières de délivrance. Ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de donner notre vie à Jésus. Cherchez d'abord le royaume, tout vous sera donné en plus. Parce que sinon, vous jouez avec le démon, d'accord? Et puis lui, il fait du bruit dans son bocal. Puis ça peut durer longtemps. Moi j'ai connu des gens, tous les soirs, prière de délivrance. Puis ils me disaient ça dure au moins 2 heures. Parce qu'ils font le rosaire, ils font tout ça, mais toujours pour être délivré. Ça ne marche pas. Et ces gens-là maintenant se sont retournés vers l'ésotérisme. Évidemment, puisque la prière n'est pas une magie. La prière, elle est communion avec Dieu. Ça s'est éteint. Bon, il va falloir se réchauffer alors. Bon, j'espère que ce message, il est bien passé. Il y a un livre qui s'appelle « Pour se défendre du malin ». Je trouve que tout est bien, sauf ce qui est au milieu. Il y a un cahier au milieu, puis c'est marqué « Si vous avez mal à la tête, priez telle prière. Si vous avez mal aux pieds, priez telle prière. » Ça, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Stop. Stop. Bon. Alors, c'est vrai que si j'ai des problèmes d'argent, je prie Saint-Joseph, ok. Mais s'il n'y a que ça, on est dans la magie blanche. Parce que nous, notre démarche, c'est de dire à Dieu que ta volonté soit faite, n'oublions pas le Notre Père. Et la volonté du Père, ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Non, la volonté du Père, c'est une volonté de vie. Donc, Seigneur, j'accueille ta vie. Et on fait l'option pour la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, donnons notre vie à Jésus. Et ça, tous les jours. Tous les jours. Alors, la première porte ouverte aux infestations, pour nous, c'est le péché. Parce que, bon, le péché, c'est pas d'abord une faute morale, c'est pas bien ce que t'as fait, et puis le petit Jésus, il va te punir, enfin, on n'est pas là, quoi. Laissez ça aux moralistes qui ne croient pas en Dieu, quoi. Le péché, c'est une rupture avec Dieu. Dieu dit ça, mais moi, je fais autre chose. D'accord? Parce que je vis ma vie. C'est ça, le péché. C'est l'histoire de ce fils prodigue. Mais avant d'être prodigue, il dit, ça suffit, je prends ma part d'héritage, maintenant je suis indépendant. Il a confondu autonomie et indépendance. Et il y a un moment dans notre vie, on dit, moi, mon père, j'ai tout fait, baptisé, confirmé, communier. Et moi je réponds, pourquoi vous l'avez laissé tomber? Qu'est-ce qui vous a fait? Et on a quitté la maison du Père. Alors, c'est d'abord ça qu'il nous faut travailler. Parce que vous comprenez que si nous demandons une délivrance et que notre vie reste dans les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? C'est clair. Vous vous amusez avec le démon. Vous le faites bouger dans votre bocal. Mais vous restez dans le même bocal. Alors, il y a une autre solution. C'est de sortir du bocal. Seigneur, je t'appartiens. Yes. Ça marche? Alors, merci Seigneur pour la chaleur. C'est vrai que voir son péché, mon père, j'ai pas de péché, ben prie le Saint-Esprit qui va te montrer ton péché. Parce que notre péché, c'est d'abord un péché d'insuffisance. Parce que un jour, on demande à Jésus, mais quel est le grand commandement, quoi? Le plus grand commandement. Et Jésus, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. C'est-à-dire à la folie. Obsédé, amoureux fou de Dieu. Voilà. Vous êtes des obsédés de Dieu, d'accord? Ben, on ne l'est jamais complètement. Donc, à toutes les confessions, on va dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'aime pas assez. C'est la souffrance des saints. Mais je voudrais t'aimer avec 1000 cœurs, mais je t'aime simplement avec mon cœur. Donc, on est dans le péché. Vous voyez? C'est facile, hein? On va préparer la prochaine confession. Je te demande pardon parce que je n'ai pas assez confiance en toi. La foi. Il m'arrive de désespérer l'espérance. Puis quand je prie, bon, ça vole pas très haut. Ma louange, bof, bof, bof. Il n'y en a peut-être pas assez dans ma vie. Faites le calcul. Quand vous vous réveillez le matin, combien de temps vous passez à louer Dieu? Alors il y a peut-être une prière d'intercession. Seigneur, fais que, fais que, fais que, fais que. Moi, moi, moi. L'intercession. Et puis, viens bénir un tel, un tel. Mais c'est bien, c'est bien. Sauf qu'il manque, quoi ? La louange. Mais vous voyez, vous aurez quelque chose à dire en confession. Le premier, on va revoir un peu, donc on va continuer les 10 commandements. Pour que nous soyons un peu plus éclairés dans notre examen de conscience. Premier commandement, Exode 20, verset 2. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Vous allez à la messe tous les dimanches ? Bon, c'est bien. Et en semaine ? Quelle est la place de Dieu ? Comparez la place de Dieu avec la place de la télévision, par exemple. Vous connaissez l'histoire de David Wilkerson. David Wilkerson, qui a écrit « La croix et le poignard », bon, c'était un des grands classiques du renouveau charismatique dans les débuts. Bon, c'est un Américain pentecôtiste. Puis on lui avait dit « En fait, tu pries pas assez. Tu regardes trop la télé. » Et il a fait un deal avec Dieu. « Seigneur, si ça vient de toi, je fais un deal, je vends ma télé et je te donne, alors je mets une petite annonce, et à partir de l'heure de l'apparition du journal, Seigneur, je te donne une heure pour que la télé soit achetée. » Enfin, le truc impossible, quoi. Vous voyez, n'importe qui a envie de regarder au moins ce qu'il achète. Donc, il a mis une horloge et il a compté les minutes. Et effectivement, au bout de 55 minutes, il n'y avait toujours rien. 56 minutes, 57 minutes, 58 minutes. Et là, il y a le téléphone qui sonne à la 59e minute. Je voudrais acheter votre télé. Mais vous ne voulez pas la voir ? Non. Bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, il a passé 2 heures de prière, parce qu'il avait fait ce deal avec Dieu, d'accord ? Il regardait la télé pendant 2 heures tous les soirs. Vous faites le compte, pour une semaine, ça fait beaucoup quand même. Puis pour l'année, vous faites le compte, waouh ! Bon, et il a prié pendant 2 heures tous les jours, à la place de regarder la télé. Et c'est là qu'a commencé sa vraie mission de croyant. Parce qu'un jour, il raconte que dans le journal, il avait vu ce qui concerne un procès concernant des jeunes dealers New York, vous voyez, New York à l'époque. Et il est pris de compassion, il ne comprend pas pourquoi. Il va au procès et ces jeunes le font pleurer. Et il y a un appel. Alors, il va oser aller dans leur lieu de réunion dans les bas quartiers, vous voyez, et là il se fait interpeller par le leader, parce qu'il n'était pas très très bien charpenté, hein, David, et il a la grâce quand il se fait interpeller et puis prendre par le collet, il rigole, et là il a touché les cœurs, et ça a été le début d'une œuvre extraordinaire qui continue aujourd'hui avec des milliers de conversions et des jeunes qui ressuscitent. Voilà. Alors, est-ce que Dieu est Dieu pour nous ? Quel est mon Dieu ? Qu'est-ce qui a la première place dans ma vie ? Et parfois, c'est vrai que c'est la télé, maintenant, c'est plus tellement la télé, c'est le portable. C'est Internet. Et voilà. Enfin, bref. Donc, les comportements idolâtres, voilà, on va pas trop donc développer parce que tout ça a été enregistré, vous pourrez le retrouver sur le site internet de la paroisse de Puyot. Le deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à faux. C'est notre respect du sacré. C'est vrai qu'on a besoin dans l'Église catholique de retrouver le sens du sacré. Lorsque vous passez devant le Saint-Sacrement, normalement, voilà, normalement, ça serait bien quand même de vous mettre à genoux, au moins à genoux en terre. Moi, je vous avoue que c'est une grande souffrance pour moi, dans les paroisses qui ont perdu le sens de la présence de Dieu. Quand on arrive, ça tchatche très très fort, comme si on était dans un salon. Mais Dieu est là, Dieu est là. Le sens du sacré, tu ne prononceras pas à faux le nom du Seigneur. Troisième commandement, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Donc c'est le dimanche. Il y a combien d'heures dans un jour ? 24. La messe, ça dure combien de temps ? Une heure. Il reste combien de temps à sanctifier ? 23. Vous voyez, c'est magnifique. Quand les gens me disent, mais je suis fatigué, je leur dis, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Parce que notre vrai repos est en Dieu. Alors, il ne s'agit pas de devenir une grenouille de bénitier, d'accord? Réciter des mantras ou je ne sais pas quoi, chrétiens, toute la journée. Non. Non, mais il s'agit de vivre la présence de Dieu. Vivre en présence de Dieu. Et il y a des choses qu'on ne va pas faire le dimanche. L'aspirateur, la tondeuse. Enfin, libérons du temps pour Dieu, pour sanctifier le jour du Seigneur. Parce que sanctifier, ça veut dire mettre à part. Et c'est magnifique d'être à part. C'est un bain de jouvence. Mais goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Mais c'est ça le dimanche. On a besoin de retrouver le temps, le sens du temps sanctifié, vous voyez ? C'est magnifique. Magnifique. Combien nous sommes régénérés dans le Seigneur. Si vous faites plus ou moins un burn-out, par exemple, ça peut arriver, vous êtes très très fatigué et que vous voulez prendre du repos, je promets que vous pouvez dormir 10 heures par nuit si vous voulez, vous ne serez pas plus reposé. Il vous manque le repos de l'âme. Et ce repos de l'âme, il va vous donner le repos aussi de l'âme psychologique et du corps. Ah oui, on est d'abord une âme spirituelle. C'est une bonne nouvelle ça aussi. Alors, on a à notre portée un trésor. Alors évidemment, si vous dites, moi j'ai eu ma messe et c'est bon, oui, moi j'ai eu ma messe. Bon, parfois on disait ça en communauté, j'ai fait mon adoration. Bon. Stop avec ça. Ça, c'est un ritualisme. Alors, la messe, c'est important, oui, mais vivons là avec le cœur et que cela remplisse toute notre journée. Comme dit la Sainte Vierge à Médégorier, on se prépare à la messe. Idéalement, il faudrait se mettre en prière avant. C'est pour ça que personnellement, je suis plutôt contre qu'on discute dans l'église avant la messe. Moi, je suis contre, excusez-moi. S'il faut reconstruire nos églises, il faudrait un sas dehors. Préparons-nous à la messe. Lisons la parole de Dieu avant, pour qu'on puisse la recevoir, vous voyez ? Et la Sainte Vierge, elle dit, il faut au moins un quart d'heure après une messe. Un quart d'heure d'action de grâce. Voilà. Et puis que ça transfigure notre journée, le sens du temps qui est consacré, mis à part. Moi, j'insiste un peu parce que je trouve ça magnifique. La loi de Dieu n'est pas une espèce de règlement de police, vous savez, qui nous empêche de vivre. En fait, Jésus nous dit au jeune homme riche, fais ceci et tu vivras. Tu vivras de la vraie vie. Alors, ne nous privons pas de la vraie vie. Et ne prenons pas le commandement de Dieu comme un truc, encore une fois je me répète, comme un règlement de morale ennuyeux. C'était un péché avant, c'est plus un péché maintenant, et puis on va s'amuser. Waouh. Non, c'est le mode d'emploi de la vie. Vous voyez, c'est tellement important. Les 10 commandements, explicités par les paroles de Jésus qui nous donne son commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Les 10 commandements, c'est un chemin de vie. Or, nous choisissons souvent des chemins de mort. L'enjeu, il est là. Soyons des vivants. Laissons Dieu vivre en nous. et nous serons plus libres, nous serons plus nous-mêmes. Sinon, nous tombons dans le piège du mensonge luciférien. Qui veut vous faire croire ? Dieu vous a dit ça ? Bon, mais regarde ce fruit, et tu vas devenir comme un dieu. Et on est souvent comme ça. La loi de Dieu, on la met un petit peu à l'écart. Eh bien non. Alors on va continuer. Les commandements qui suivent sont les péchés concernant la relation aux autres, peut-être aussi à soi-même finalement. Alors tu honoreras ton père et ta mère, c'est le quatrième commandement, et qui va intégrer finalement cette notion de respect pour ceux qui ont l'autorité, car un père, une mère a une autorité spirituelle. Alors, d'accord, parfois, ça arrive hélas, cette autorité, elle est pervertie. Mais sachons discerner l'autorité spirituelle. Pour être dans un esprit de soumission, lorsque saint Paul dit dans les Éphésiens « Soyez soumis les uns aux autres » et puis continue les femmes à leur mari, on est un peu fâchés, enfin vous les dames, vous êtes souvent un peu fâchés, mais sachons que saint Paul parle d'un esprit, l'esprit de soumission, qui n'a rien à voir avec se soumettre à une emprise. C'est une attitude d'humilité qui fait que nous recevons aussi en l'autre quelque chose de Dieu. C'est un respect. Et l'obéissance ecclésiale, quand on est religieux, quand on est prêtre, on fait un vœu d'obéissance. Enfin, pour le prêtre, ça ne s'appelle pas un vœu, mais une promesse. C'est dans cet esprit-là. Ici, dans le diocèse de Bayonne, on connaît bien Sainte Mariam de Bethléem, de Jésus crucifié. Cette sainte extraordinaire qui est passée à Pau à un moment. Et elle parle beaucoup, beaucoup de l'obéissance. Mais c'est un esprit, et il s'agit de cela ici. Je cite Sainte Mariam de Bethléem. L'obéissance et la soumission sont deux cierges pour éclairer l'âme dans les ténèbres. C'est dans le moment noir, dans le moment terrible, qu'il faut se laisser conduire par l'obéissance. Certes, c'est une religieuse qui parle, mais notre obéissance, ne l'oublions pas, est une obéissance au Saint-Esprit. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse vivre. Galates 5. Et la première épître de saint Pierre, chapitre 2, nous dit « Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'empereur qui est le souverain, soit au gouverneur qui sont ses délégués. » Alors, évidemment, il faut lire toute la Bible, pas isoler des passages, parce que dans un autre endroit, et c'était dans les Actes des Apôtres, les apôtres disent « Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », parce qu'il y a contradiction à certains moments. Donc, l'obéissance et la soumission ne sont pas, ici, ne veulent pas dire une aliénation et la soumission à une emprise pour nous faire faire n'importe quoi. D'accord ? On ne va pas se faire exploser sur le marché du coin, même si on nous l'a demandé. D'accord ? Ce n'est pas cette obéissance-là. Parce qu'on va discerner, et pas tout seul, parce qu'il vaut mieux avoir un père spirituel, eh bien on va discerner que ce qu'on nous dit n'est pas de Dieu. Mais l'importance de vivre dans l'obéissance au Saint-Esprit. Ce qui est dit dans le canon de 112, les fidèles, conscients de leurs propres responsabilités, sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maître de la foi ou décident en tant que chef de l'Église. Vous voyez, ça c'est le mystère de l'Église. Et là encore, avec discernement. Oui, avec discernement. Voilà. Cinquième commandement. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Alors, aujourd'hui, j'allais dire qu'on a besoin de courage, nous les chrétiens, pour accueillir ce commandement de Dieu, puisque, comme vous le savez, maintenant en France, non seulement l'avortement est permis et remboursé, si je ne m'abuse, mais il est aussi dans la Constitution. Alors, moi je veux juste vous lire ce que dit l'Église par rapport à ça. Déjà, dans la tradition vivante, 2e siècle, à Didaché, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas l'enfant par avortement. Tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Le 2e concile du Vatican définit l'avortement comme un crime abominable, en même temps que l'infanticide. Vous trouvez ça dans Gaudium et Spes. Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae, on est en 1995 si je ne m'abuse, l'avortement provoqué est le meurtre délibéré et direct, quelle que soit la façon dont il est effectué, d'un être humain dans la phase initiale de son existence, située entre la conception et la naissance. Alors vous allez dire, mais oui, mais on ne sait pas si c'est un être humain, est-ce qu'il a une âme. Regardez la Sainte Vierge dans sa visitation. Jésus, il a quelques jours dans son ventre, d'accord ? Et Élisabeth, elle l'appelle déjà la mère de mon sauveur. Donc le sauveur, il est là. Bon, après, vous avez tout ce que disent les scientifiques par rapport à l'âme. Vous savez qu'en psychologie, on a étudié un peu la phase de la psychologie de l'enfant dans le ventre de sa mère. Et on peut avoir la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis la conception. Bon, ça c'est la science. Mais c'est pas parce que le gouvernement français vous dit que c'est dans la Constitution que maintenant vous allez y aller franco. Non, vous n'êtes pas de ce monde. Parce que l'avortement reste une infraction à la loi de Dieu, donc une ouverture aux démons, d'accord ? Mais Dieu est miséricorde, évidemment, il ne condamne personne. Mais il faut demander pardon et réparation. Des raisons même graves, comme le viol, pour graves et dramatiques qu'elles soient, ne peuvent jamais justifier la suppression délibérée d'un être humain innocent. Jean-Paul II toujours, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave, en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. En conséquence, le respect absolu de toute vie humaine innocente exige aussi l'exercice de l'objection de conscience face à l'avortement provoqué et à l'euthanasie. Faire mourir ne peut jamais être considéré comme un soin médical. Vous voyez, on est dans le sujet. Hein. Il y a un an, je vous ai sans doute raconté cette histoire, j'ai été appelé pour une conférence auprès des jeunes d'une école à Dax. Et lorsque j'ai dit que l'avortement était une porte ouverte aux démons, Il y a un petit jeune qui s'est levé et du haut de ses 18 ans m'a dit « Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, l'avortement c'est un acquis » et il s'est fait applaudir par à peu près le tiers des 200 personnes qui étaient là. Voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Quelle manipulation ces jeunes subissent parce qu'ils vont dire « C'est la télé qui a raison, c'est M. Macron qui a raison, c'est le gouvernement français qui a raison ». Ben non, c'est Dieu qui a raison. Je ne sais pas comment vous vous situez, mais il faut se situer. Voilà. Alors, tu ne tueras pas, donc, pas d'avortement et pas d'euthanasie, oui. On respecte la vie qui ne nous appartient pas. Par contre, on peut aussi tuer par nos paroles, par nos gestes. On n'a pas forcément besoin d'aller voir un sorcier pour tuer une personne. Et nous pouvons effectivement entretenir en nous des jugements, des condamnations, propager des médisances sur une personne, détruire son honneur, sa réputation. C'est une façon de tuer. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Et là, il faut peut-être avouer qu'on est tous plus ou moins concernés. La parole est censée être créatrice parce que Dieu nous a fait à son image et la parole de Dieu crée. Mais notre parole peut détruire. Et elle peut nous détruire nous-mêmes par l'auto-malédiction. Je suis nul, personne ne m'aime, j'y arriverai jamais. Bon, ça c'est l'auto-malédiction, on se tue soi-même, c'est un suicide. Et on peut faire évidemment pareil pour les autres. Alors la question, évidemment, pour nous, c'est de mettre des filtres à notre esprit et à nos paroles. Et nous poser la question aussi, est-ce que j'ai bien pardonné? Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on est dans la malédiction. Et le pardon, effectivement, se travaille. Vous pouvez dire, mais oui, j'ai pardonné. Et en fait, quand vous regardez la photo, la personne, ben, ça remue, quoi. Alors bon, moi, c'est un petit conseil que je donne éventuellement. Vous mettez la photo de la personne qui vous a fait du mal, enfin, vous estimez qu'elle vous a fait du mal, en tout cas, vous avez du mal à lui pardonner. Vous la mettez dans votre coin prière. Puis vous la ressortez derrière l'icône. Et puis, il y a un jour, waouh, il y aura la paix. Mais demandons vraiment d'être des hommes et des femmes de paix. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser marcher sur les pieds, ne vous inquiétez pas. Mais on a d'autres armes que l'amertume, que le jugement, que la condamnation. Parce que ces armes-là nous enferment dans des liens mortifères. Alors, un sujet un petit peu difficile à aborder, mais on y va. C'est le sixième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, verset 14. On rajoute aussi le neuvième commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. En gros, pas de luxure. Et la tradition donc de l'Église, elle a entendu le sixième commandement comme englobant toute la sexualité humaine. Alors, c'est assez facile à comprendre finalement. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, tout en nous est finalisé à l'amour, mais attention, l'amour agapé. Je vous ai souvent parlé de la différence entre amour agapé, je t'aime parce que c'est toi, c'est Adam émerveillé quand il voit Ève, et c'est gratuit, et puis la différence entre donc l'amour agapé et l'amour philotia, l'amour égocentrique. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Je t'aime parce que je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime parce que je te trouve très intéressant. Et moi, moi, moi. Alors, vous comprenez que nos yeux, nos oreilles, nos mains, notre sexualité, elle est faite pour l'amour agapé. Est-ce que vous me voyez venir? Et non pas pour l'amour philotia, vous avez tout compris. Si vous avez compris ça, vous comprenez le commandement de Dieu par rapport à la sexualité. Nous ne sommes pas des animaux avec des pulsions. Ce qui nous rend heureux, ce n'est pas la sexualité qu'on va exercer. Ce qui nous rend heureux, c'est l'amour agapé. Il y a une étude qui a été faite par un journal féminin, parce que ça vaut, c'était l'année dernière, qui disait que plus de la moitié des personnes sont insatisfaites par leur relation sexuelle dans leur couple. Parce que nous sommes faits pour aimer et pas pour assouvir des besoins, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Nous sommes faits pour aimer, mais pas de n'importe quel amour. Et ceux qui vivent en couple parmi nous, ils pourront sans doute le témoigner. L'amour agapé n'est pas l'amour philotia. Alors, il y a une notion clé que j'aimerais que nous entendions et qui est difficile à entendre, parce que c'est un mot qui fait ringard, tant pis, je me lance, la chasteté. Ça vous fait envie, hein. En général, quand on parle de chasteté, on dit, oui, coince-coince, etc. Bon, alors, redécouvrons le sens du mot chaste, qui vient du latin castus, castus, qui a donné la caste. In castus, ça a donné incestueux. C'est intéressant. Autrement dit, celui qui n'est pas chaste a un esprit incestueux. Et là, laissez-moi partir un peu dans la psychologie. Celui qui n'est pas chaste n'est pas séparé de sa mère, symbolique. Il n'a pas fait le deuil du cordon ombilical. Autrement dit, spirituellement, il est dans l'idolâtrie. Il demande et il exige que l'autre remplisse ses besoins. Or, on va devenir adulte psychologiquement et spirituellement lorsque on devient autonome, y compris dans son affectivité. N'exigez pas de l'autre qu'il remplisse vos besoins. Dieu seul peut le faire. Et vous savez, quand on cultive des salades, on les démarie pour pas qu'elles poussent trop près les unes des autres. Celui qui n'est pas chaste, c'est celui qui va se mêler de tout. La curiosité sur l'autre fait partie d'un manque de chasteté. Parce que chez l'autre et chez tout autre, il y a un jardin secret, même si vous êtes marié depuis longtemps, l'autre a un jardin secret. Respectez, respectons ce jardin secret. Celui qui estime que l'autre doit tout lui dire, où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais à telle heure, à telle heure, à telle heure, il n'est pas dans l'amour. Il est dans philotia. Et il n'est pas dans la chasteté. Il n'aime pas vraiment. Il attend de l'autre une sécurité non seulement il attend, mais il exige. Car nous sommes tous des pauvres, évidemment. Qui d'entre nous n'a pas besoin d'amour? On a tous besoin d'amour. Mais lorsque nous exigeons l'amour de nos amis, de notre conjoint, alors nous sommes sortis de l'amour. Il n'y a pas d'amour possible. Parce que c'est le cantique des cantiques qui le dit au chapitre 8. Celui qui veut acheter l'amour ne récolte que le mépris. Si vous exigez que l'autre vous aime, il va prendre des distances. Et il aura bien raison. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Et c'est ça la chasteté aussi. Autrement dit, si je reviens dans la psychologie, on va sortir de la logique fusionnelle pour entrer dans une autre logique, une autre façon d'aimer, qui est la logique de la communion dans la différence. Alors, effectivement, pour comprendre ce commandement de Dieu, il nous faut comprendre ce qu'est la chasteté. Car la chasteté, c'est la condition du développement en nous de l'amour véritable. Car dans l'amour véritable, on est centré sur qui ? On n'est pas centré sur son nombril pour exiger que l'autre remplisse nos besoins. On est centré sur la personne de Christ. Et pour passer alors de philotia à agapé, comment ça se passe ? Eh bien, il s'agit effectivement, puisque nous sommes croyants, de faire l'expérience de l'amour de Dieu. L'expérience du Christ, car lui seul peut répondre à nos besoins fondamentaux. Lui seul. Lui seul. 2 Corinthiens 5, verset 15. « Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus centrés sur eux-mêmes, mais centrés sur celui qui est mort et ressuscité pour eux. » En conséquence, tout baptisé est appelé à la chasteté. Oui, comme état où l'amour véritable, agapé, peut prendre corps. Tant que vous restez relié avec une mère symbolique, parent symbolique, une espèce de cordon ombilical qui fait que vous exigez des autres qui s'occupent de vous, alors vous n'êtes pas chaste. Et sexuellement, ça sera compliqué. Compliqué. Parce qu'on risque effectivement de fonctionner plus avec nos passions physiques et psychologiques qu'avec notre cœur. Donc, nous ne fonctionnerons pas d'une façon humaine, mais infra-humaine. J'allais dire animale. Alors, si on a compris ça, évidemment, on a tout compris. La chasteté des époux, c'est effectivement laisser l'autre être lui-même. Et ce qui intègre la relation conjugale, certes, mais pas n'importe comment. Cette relation conjugale, eh bien, elle est forcément un moyen et une expression de la communion des cœurs dans l'agapé, non pas un moyen d'assouvir ses besoins physiques, ses pulsions ou psychologiques, ses angoisses. Alors, l'acte sexuel dans le mariage, consacré donc à Dieu, il a deux actes. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique. Il a l'axe de la communion et l'axe de l'ouverture à la vie. Alors vous allez me dire, mais oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec les 30 enfants qu'on va avoir ? Bon, vous savez que nous ne croyons au plus aux méthodes naturelles de régulation des naissances que la pilule et tout ça. De toute façon, vous verrez que les moyens chimiques et mécaniques sont moins efficaces que les méthodes naturelles. Bon, renseignez-vous. Et il s'agit donc ici, attention, je voulais juste rajouter un truc, le stérilet. Le stérilet est abortif, est-ce que vous le saviez? Puisqu'il n'empêche pas la fécondation, mais il empêche la nidation. Donc il est abortif, pas de stérilet. Et si vous êtes arrivé d'utiliser le stérilet, que vous soyez un homme ou une femme, parce que l'homme il est complice, demandez pardon à Dieu, faites célébrer des messes pour ces âmes qu'on ne connaîtra jamais, mais qui sont nées quand même. Ce sont des âmes humaines, pas de stérilet. Et souvent, on le sait pas. Voilà. Alors, on ne peut pas prendre trop de temps sur le mariage, bon, de la fidélité, la fécondité, tout ça. Et finalement, ce que l'Église nous dit, c'est que l'exercice de la sexualité n'est vraiment humaine à 100% que lorsqu'elle est dans le cadre de l'union sacrée entre l'homme et la femme. Parce que là, vous avez la communion en Dieu et vous avez le respect de la vie. Toute autre situation, eh bien, finalement, l'Église demande à ce que on ne s'approche même pas de la communion lorsqu'on vit sa sexualité en dehors du mariage chrétien. Ça, on le sépare. Mais lisez le catéchisme de l'Église catholique. L'union charnelle n'est moralement légitime que lorsque s'est instaurée une communauté de vie définitive entre l'homme et la femme. L'amour humain ne tolère pas l'essai. Il exige un don total et définitif des personnes entre elles. L'acte sexuel doit prendre place exclusivement dans le mariage. En dehors de celui-ci, il constitue toujours un péché grave et exclu de la communion sacramentelle. Alors vous allez me dire, mais ça ne correspond pas vraiment au monde actuel. Mais si vous voulez, ce n'est pas à la loi de Dieu de s'adapter au monde, c'est au monde de s'adapter et d'entendre la loi de Dieu, non pas comme quelque chose qui va nous empêcher de vivre, mais encore une fois, comme un chemin de vie. Est-ce qu'on entend ça? C'est-à-dire, si tu veux être heureux dans ta sexualité, puisque plus de la moitié des gens, paraît-il, ne sont pas satisfaits de leur sexualité, dans un couple qui dure, d'accord? Eh bien, travaillons à ce que notre sexualité soit l'expression de l'amour. Pour ça qu'évidemment, on va écarter la prostitution, on va écarter toute forme de luxure, la masturbation, tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que, y compris l'homosexualité, pas en tant que tendance, mais en tant qu'acte sexuel. D'accord? L'Église n'a jamais condamné les personnes qui ont une tendance homosexuelle. Mais par contre, elle dit que l'acte homosexuel ne conduit pas au bonheur. Voilà. Par contre, on n'est absolument pas contre que des personnes qui éprouvent ce type de tendance puissent s'associer, mais dans une relation chaste et continente. Et ça, c'est pour plus de bonheur. Parce que si vous avez le courage d'examiner la relation hors mariage et un peu dans les détails, vous allez voir que, j'allais dire pratiquement à chaque fois, mais bien souvent, on a tous les ingrédients du philotia. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Oui, voilà. Philotia. Et effectivement, dans ce type de couple, pas légitime, pas fondé en Dieu finalement, eh bien l'autre est un remède. C'est un remède à l'angoisse, c'est un remède aux besoins fondamentaux. Et on n'est pas encore dans l'amour pleinement humain, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est très délicat, je vous demande pardon si je choque certains. Mais il faut avoir le courage d'aborder ces questions. Si vous avez compris ce qu'est la chasteté en tant que séparation de la relation de fusion, alors vous avez bien avancé. Et vous allez dire, mais je suis seul. Eh bien, vous avez raison, on est tous seuls. Et c'est pour ça que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est pas juste parce que c'est bien d'aimer Dieu, etc., parce que sinon je fais un péché. Donc l'aspect moral, on n'a rien compris. Parce que aimer Dieu, c'est être à la source. Pourquoi est-ce que on a besoin de la communion eucharistique? Pourquoi on a besoin de se laisser remplir au jour le jour par Dieu? Et qu'on va dire dans le Notre Père, mais Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Mais savez bien que le pain, c'est Jésus lui-même. Je suis le pain vivant. Et nous allons supplier Jésus, donne-nous ce pain. Ben oui, parce que si nous n'avons pas ce pain, ben il nous reste les bras de... Je ne sais pas qui. Mais ces bras-là, ils ne sont pas Dieu. Ce qui n'est pas fondé en Dieu tombe un jour ou l'autre. En général, les relations fusionnelles, dans le couple, chez des amis, même chez des personnes, alors peu importe qui, mais cette relation, pour moi, ce que j'ai vu, elle ne dure pas plus de 5 ans. Donc soit au bout de 5 ans, ça explose, soit au bout de 5 ans, il y a toujours, vous savez, dans la relation qui n'est pas chaste, il y a toujours un dominant et un dominé. Vous pouvez regarder. Il y a toujours un qui dirige, puis l'autre, c'est un peu le toutou qui suit. Eh bien, si ça dure, eh bien, cet aspect-là va s'enquister. C'est des gens qui ne sont pas vraiment heureux, je vous promets. Parce que quand on est sous emprise, on n'est pas heureux. J'ai encore rencontré, il n'y a pas très longtemps, une personne qui me racontait que dans le dernier couple, parce qu'il y en a eu plusieurs, qu'elle a expérimenté, c'était vraiment super au niveau sexuel. Vraiment, ils s'entendaient vachement bien. Bon, sauf que l'autre était pervers. C'est-à-dire qu'il avait une emprise réelle sur elle. Et elle ne s'en est pas rendue compte parce que c'était super au niveau sexuel. Franchement, super, super. Et vous voyez, quand il n'y a pas la chasteté, quand on ne construit pas en Dieu, alors là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un esprit de viol qui n'était pas physique, mais qui était spirituel. Parce qu'il l'a dominé. Et je vous promets que ce n'est pas fini son histoire. Dans l'exorcisme, on a travaillé ça. Parce qu'elle était franchement sous la domination. Et elle ne voulait pas, d'ailleurs, le quitter dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait bien réussi son coup. C'est un esprit de séduction. Dans la fusion, on est avec des esprits de séduction. D'accord? Donc l'autre, il est merveilleux, c'est extraordinaire, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, etc., etc. Et puis on va lui donner toutes les qualités du monde. Jusqu'au jour Oh, ça se casse la figure, mais pas tout, parce que justement, il vous a séduit. Séduit, ça veut dire réduit à lui-même. C'est une forme de viol. Et en fait, dans la relation pas chaste, on est sous emprise. J'espère que je me fais comprendre. C'est délicat, hein, ces sujets-là. Mais ce qui est magnifique, c'est de comprendre que tout en nous est finalisé à l'amour et à l'amour agapé. Tout. Je peux être fâché même avec ma sexualité, etc. Parce que, bon, on est dans une période un peu de confusion à ce niveau-là. Voilà. Mais si je me dis, Seigneur, ce que tu m'as donné, y compris ma sexualité, qui n'est pas à confondre avec la génitalité, souvent on confond les deux, eh bien cette sexualité, elle est finalisée à l'amour, agapé. Et on n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles pour être sexué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas besoin d'être dans la génitalité, comme des bœufs, excusez-moi, comme des animaux qui ont leurs besoins, ou je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin de ça pour manifester sa sexualité. Parce que la sexualité, elle est aussi une force spirituelle. D'accord ? Qui est une force de don et d'accueil. Et qui va sous-tendre notre vie. Alors que dans la génitalité, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on fait marcher nos pulsions physiques, nos désirs psychologiques aussi. Et tout ça doit être unifié en Dieu. Parce que en Dieu, c'est le vrai nous-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre ? Nous ne serons nous-mêmes que si nous serons toutes en Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que le livre de l'Apocalypse nous dit que lorsque, dans l'au-delà, au ciel, on recevra un caillou blanc avec notre nom. Ça veut dire quoi ? Vous savez bien que, dans la tradition biblique, le nom, c'est l'identité. Et Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit que nous sommes déjà enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Donc notre vraie identité, elle est en Dieu. Plus nous nous donnons à Dieu, plus nous devenons nous-mêmes. Et finalement, plus nous devenons humains. Vous me suivez toujours ? Alors, voilà. Il y a un examen de conscience, évidemment, à faire. Qui d'entre nous est vraiment chaste ? Bon, on a encore des progrès à faire, c'est un chemin, oui. Donc on n'est pas dans la culpabilisation mortifère, ben non. Mais on va entendre qu'il y a un chemin. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi ? C'est la sanctification. Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. C'est ce que nous dit le père Mangeacal à chaque fois. La sanctification. Voilà. Alors on va être sanctifié aussi dans notre corps. Et c'est tellement beau de dire que tout en moi, mes yeux, mes mains, ma sexualité est fait pour l'amour agapé. Magnifique, non ? Donc ceux qui vous disent, oh non, si tu n'exerces pas, tu vas devenir stérile. C'est ce qu'on disait aux élèves en Afrique, là où j'étais. Si tu n'as pas, si tu ne te donnes pas, tu vas être stérile. J'ai eu l'occasion d'enseigner à des jeunes filles. Donc, il y en avait souvent une qui était enceinte. Alors, aux hommes, on va leur dire, oui, si tu n'exerces pas, tu vas devenir stérile aussi. Donc, à 25 ans, c'est fini. Ne les croyez pas. On n'est pas des bêtes. Par contre, si on prend des moyens chimiques de contraception pendant des années, on aura peut-être du mal à avoir des enfants après. Ben oui. Vous savez, la nature est bien faite et on est fait pour Dieu. On est fait pour l'amour, mais l'amour agapé. Et là, au niveau de la sexualité, il y a beaucoup de mensonges. Le monde nous ment. Puisque il vous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir une prostituée dans votre lit, quoi. Attendez, on est quand même fait pour mieux que ça. Voilà. Alors bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur de nous avoir fait pour aimer. Voilà.